L'Église sacrement du salut, ça c'est le titre de ce que nous allons essayer de développer un peu ce soir, et j'espère qu'on sortira dans une demi-heure avec une vision un petit peu plus globale, une meilleure compréhension de ce qu'est l'Église et qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase, qu'elle est le sacrement du salut. Alors cette expression, on la trouve dans le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, on en entend souvent parler, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a longtemps, c'était au XXe siècle, des évêques se sont réunis à Rome et ont dit plein de choses qui a bouleversé l'Église. Aujourd'hui, ce que nous savons du Concile Vatican II, c'est un gros bouquin, pas si gros que ça en fait, avec plusieurs textes. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer à méditer à travers ce thème que nous avons, la toute première partie du tout premier texte du Concile Vatican II qui s'appelle Lumen Gentium et qui parle justement de ce qu'est l'Église. Parce que ce Concile a voulu redéfinir, ou plutôt aller plus en profondeur de la compréhension du mystère de ce qu'est l'Église. Alors le but pour nous aujourd'hui, c'est justement de comprendre qui est cette Église. Vous allez voir qu'elle est bien plus que ce que nous pensons d'habitude et que réfléchir sur sa nature nous donne énormément de matière pour notre vie spirituelle. C'est un mystère de notre foi que nous professons tous les dimanches dans le credo « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique ». C'est une réalité que nous devons contempler. Dans le christianisme, quand on parle d'un mystère, quand on parle d'une réalité à contempler, on parle toujours quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre, qui est tellement grand, qui est tellement puissant, qui est tellement important pour notre vie qu'on peut toujours aller plus en profondeur, qu'on peut toujours regarder, on en sera illuminé. Le mystère de l'Église que nous apprêtons à contempler de la sorte, est un mystère qui est intimement lié au mystère du Christ Jésus. Contempler l'Église, c'est entrer dans le mystère du Christ. C'est comme un seul mystère, le Christ et son Église. Contempler l'épouse du Christ, son Église, c'est voir Jésus. Et l'Église, d'ailleurs, c'est ce que nous allons essayer de comprendre, nous est justement donnée pour que nous puissions voir le Christ. Elle est le moyen qui nous permet de le voir, de le contempler et de lui être unis. Ainsi donc, Lumen Gentium, cette constitution apostolique, donne une définition de l'Église. Dès le premier numéro, l'Église est, dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Là, vous dites, ça y est, il nous a perdus, on ne sait plus où on en est. Ne vous inquiétez pas, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Et peut-être que quand je relirai la phrase à la fin, on comprendra un petit peu mieux ce que ça veut dire. Alors, sacrement. L'Église est en quelque sorte le sacrement. Il faut expliquer. C'est des mots qu'on entend régulièrement, mais on ne sait pas toujours exactement ce que ça veut dire. Le mot sacrement, il veut simplement dire signe. C'est-à-dire que l'Église est un signe, tout simplement. Lorsqu'un enfant est baptisé, il est plongé dans de l'eau, ou verse de l'eau sur son front, il reçoit le signe de l'eau. C'est un sacrement. L'Eucharistie, c'est le signe du pain et du vin. Mais évidemment, ce signe n'est pas suffisant. Lorsque nous sommes baptisés, on n'est pas simplement lavé dans de l'eau. Sinon, il nous suffirait simplement de prendre un bain et on n'aurait pas besoin d'aller à l'église. L'eau est le signe de quelque chose d'autre. Si nous allons à l'église pour recevoir le baptême, c'est parce que nous voulons être lavés de nos péchés. Et c'est bien cela que nous venons chercher. Et c'est aussi, en même temps que ce que nous venons chercher, c'est ce que l'enfant qui est baptisé reçoit réellement quand l'eau coule sur son front. C'est-à-dire que l'eau qui coule est le signe que nous sommes lavés de nos péchés, mais en plus de cela, en recevant cette eau, nous sommes vraiment, réellement lavés de nos péchés. Bref, vous l'avez compris, j'espère, le sacrement, c'est un signe, mais c'est beaucoup plus qu'un symbole. L'eau n'est pas que le symbole qu'on est lavé de nos péchés, c'est un signe qui nous donne la grâce, qui nous donne d'être lavé de nos péchés en nous donnant ce signe. L'eau me donne d'être lavé, elle me donne de mourir avec le Christ et de ressusciter avec lui. Voilà quand le Concile parle de l'Église comme un sacrement, ce qu'elle entend par le mot sacrement. C'est ça, un signe qui donne une grâce. Eh bien, ce que nous dit le Concile, c'est que l'Église elle-même est en quelque sorte comme un sacrement. Elle est un sacrement. Elle est à la fois le signe de quelque chose, et on va voir de quoi, et elle est aussi la réalité de ce qui est signifié. Pour prendre un exemple peut-être un peu plus facile, une bague de fiançailles signifie l'amour du fiancé pour sa fiancée. Quand il lui donne cette bague, il lui dit c'est ça le prix de mon amour. Alors bien sûr c'est plus que ça, mais c'est pour ça qu'il y met le prix. Eh bien, l'Église, c'est en quelque sorte une bague de fiançailles que Dieu nous donne, qui signifie tout son amour. Sauf qu'en plus de dire l'amour de Dieu, de signifier cet amour de Dieu pour nous, c'est à travers elle, c'est grâce à elle que Dieu nous aime et nous sauve. On pourrait dire, c'est une définition peut-être pas très conventionnelle, mais que l'Église, c'est une bague de fiançailles qui contient l'amour de l'époux pour son épouse. C'est une bague de fiançailles qui contient l'amour du Christ pour l'humanité, pour nous, pour son Église. Voilà ce que nous comprenons quand nous disons que l'Église est un sacrement, un signe et une réalité, une bague de fiançailles. L'Église, elle est donc le moyen par lequel le Christ nous donne une grâce. Mais pas n'importe quelle grâce, un grand cadeau. Elle est le signe et le moyen, dit le Concile, de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Le signe de l'union intime à Dieu, de mon âme avec le Seigneur Jésus, mais aussi de l'unité entre nous, de tout le genre humain. C'est-à-dire que l'Église est le signe de l'union à Dieu, mais aussi ce par quoi nous pouvons entrer dans cette union avec Dieu. Elle est le signe, mais aussi la réalité qui nous permet d'entrer en communion. Et l'Église est aussi, et inséparablement, on ne peut pas le séparer, le signe de l'union des hommes entre eux. Et donc elle est aussi, vous l'avez compris, ce par quoi les hommes sont unis, le signe et la réalité. Et il me semble que c'est important de ne pas séparer ces deux aspects de l'Église quand on veut la comprendre, quand on veut entrer dans son mystère, et de découvrir ces deux aspects qui sont inséparables. Mon expérience me montre que certains rencontrent le Christ dans une relation très personnelle, dans une relation intime. Ils entrent un jour dans une église et boum, c'est Jésus. Ils le voient, il est là, il est présent, il les fortifie. Mais parfois, ils n'ont pas encore découvert cet aspect de l'Église qui est les frères en Christ qui nous sont donnés, la communion de la charité qui se déploie quand on rencontre le Christ. Alors que d'autres, bien souvent ceux qui sont dans l'Église depuis peut-être plus longtemps, ont découvert la communauté des croyants et ils s'y sentent bien, ils n'ont pas encore, ils s'y sentent bien, ils sont là. Ils prient, ils aiment ça, mais ils n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Deux expériences incomplètes de l'Église et qui sont comme un premier pas qui nous amène à la découvrir dans son entièreté, dans tout ce qu'elle est, dans la découverte de notre foi. Et on ne peut pas s'arrêter là. La découverte du Christ et de son Église, de cette communion des frères, va nécessairement ensemble. Les deux sont nécessaires. Le Christ et l'Église sont indissociables. Il n'y a qu'un seul sacrement du salut qui nous donne à la fois l'union avec Dieu et la communion avec nos frères. C'est le sacrement du salut, le signe qui nous donne le salut. Le Christ nous sauve par son Église et jamais en dehors d'elle. Cette phrase, il faudrait une autre conférence pour l'expliquer peut-être. Mais oui, le Christ nous sauve toujours par son Église. C'est le moyen de salut qu'il a voulu pour nous sauver. Et il nous donne de le découvrir et de les découvrir aussi en nos frères, sa présence en nos frères. Alors il faut dire ici un mot sur l'origine de l'Église qui va un petit peu aussi nous éclairer sur sa nature, sur ce qu'elle est. Pour mieux comprendre cette grâce qu'elle nous donne, ce cadeau qui nous est donné par le Christ, l'Église est née au moment de la croix. Lorsque le centurion romain a ouvert le cœur du Christ avec la lance, il en est sorti du sang et de l'eau. Du cœur du Christ se déverse sur l'humanité qui est là devant lui, pour qui il meurt, tout son amour. Et les pères de l'Église ont vu dans ce moment la naissance de l'Église. Et le centurion s'exclame alors, celui-ci vraiment était le Fils de Dieu. Le sang et l'eau deviennent le signe qui lui permettent de voir le Christ, symbole de l'Église naissante. L'amour de Dieu se déverse sur l'humanité et l'humanité est sauvée par le sang du Christ. Voilà ce qu'est l'Église. Le salut que nous apporte l'Église passe ainsi toujours par le cœur transpercé du Christ sur la croix. Et l'Église nous conduit à ce cœur de Jésus. Et elle nous y conduit par la mort, pour que, en mourant avec lui, nous ressuscitions avec lui dans sa gloire. L'Église est ainsi intimement liée au mystère du Christ et au mystère du Christ sur la croix, au mystère de sa résurrection également. Et elle en est le signe et la réalité. Elle nous place à cet endroit pour que nous recevions, comme le centurion romain a reçu l'eau et le sang de Jésus, source de salut, pour que nous recevions l'amour du Christ qui s'offre à son Père sur la croix. L'Église ainsi montre le crucifié. Elle nous place devant le sang qui coule de son côté transpercé et nous donne ainsi le salut en reconnaissant dans la foi que vraiment cet homme qui est défiguré aussi dans mes frères, vraiment cet homme est le Fils de Dieu. Alors, comment est-ce que l'Église fait pour nous donner cette grâce? Comment est-ce qu'elle en est le signe de cette grâce du salut qui nous est donnée? Comment fait-elle couler ce sang et cette eau afin que nous recevions, que nous voyons et que nous recevions le salut? Pour mieux comprendre, et je fais là quelque chose d'absolument pas original, je continue à suivre le texte du Concile, qui lui-même puise dans le Nouveau Testament. Regardons trois analogies, trois comparaisons que fait saint Paul, trois images qu'il utilise pour parler de l'Église, pour nous faire comprendre qui elle est. Et par ces images, nous allons mieux comprendre ce qu'elle est, sa nature, et par là comment elle agit en nous. L'Église, première analogie, est le corps du Christ. C'est assez familier, nous sommes le corps du Christ. Mais elle est aussi le peuple de Dieu et elle est le temple de l'Esprit-Saint. Et je vous propose assez rapidement de voir chacune des trois analogies, des trois comparaisons, pour comprendre. On connaît bien l'image du corps du Christ. Elle nous est familière, c'est très simple. Le Christ est la tête, un corps, et nous, nous sommes ce corps. Nous sommes les membres. C'est très simple, mais ça a énormément d'implications. Alors sans être exhaustif, sans tout dire, je propose de prendre quelques points importants de ces implications du fait que l'Église est corps du Christ. De la même manière que la tête ne peut absolument pas être séparée du corps, ainsi le Christ et son Église sont inséparables. Si on sépare le corps, c'est-à-dire l'Église, de la tête, le Christ, c'est la mort, comme pour n'importe quel autre corps. Si l'Église n'est pas rattachée au Christ, elle meurt. Et c'est ainsi que l'Église est signe et réalité de la présence divine en nous. Elle nous rattache au Christ, à la tête. Par ce corps que nous formons et dont nous sommes chacun les membres, nous sommes attachés à la tête, c'est-à-dire au Christ. Là où est le corps, là aussi est la tête, et inversement, là où est la tête, est aussi le corps. Présence du Christ et de l'Église. Deuxième enseignement de cette analogie du corps. De la même manière que le corps de Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans, celui qui s'est baladé en Judée, en Galilée, Jésus de Nazareth, son corps a permis de voir le Fils de Dieu. Et de la même manière, son corps mystique, qui est l'Église, permet aujourd'hui de le voir à travers son corps qui est l'Église, de le voir et de lui être uni. Elle est le signe qui permet de voir, qui nous donne la grâce de l'union, de la communion, d'être unis avec le Christ par son Église. C'est par l'Église que nous avons accès au Christ Jésus. Alors le corps que nous voyons est bien imparfait. Mais puisqu'il est attaché à la tête, qui est le Christ, il devient saint. L'Église reçoit du Christ la sainteté. Et l'Église est donc sainte puisqu'elle est attachée à la tête, le Christ. Elle est sainte même dans la mesure où elle est attachée à la tête. Et d'ailleurs, vous l'avez compris, si elle n'est plus attachée à la tête, si quelque chose en elle n'est plus attaché à la tête, elle meurt. Elle ne fait plus partie du corps. Ça n'est plus l'Église, puisque l'Église est inséparable du Christ Jésus. Tout ce qui dans l'Église est attaché au Christ est saint, et tout ce qui n'est pas attaché au Christ ne reçoit pas de lui la sainteté et ne fait plus partie de son corps puisque c'est détaché de lui. Au fond, c'est l'Église qui nous réunit. Parce que nous sommes attachés au Christ. On ne fait pas partie de l'Église comme on appartient à un groupe ou à une famille. On fait partie de l'Église parce qu'on appartient à une personne dont nous sommes le corps. Nous appartenons au Christ et nous formons son corps. Et c'est parce que nous sommes son corps que nous sommes aussi unis entre nous. Et c'est pourquoi on peut dire que l'Église est le signe de l'unité, mais qu'elle est aussi la réalité de cette unité entre les chrétiens. L'Église nous donne à voir l'unité, mais c'est aussi elle qui réalise cette unité entre les hommes. Et cette unité est d'une force incroyable, la force du Christ Jésus lui-même. dans la mesure où nous lui sommes unis. Tout corps grandit, et l'Église, qui est corps du Christ, n'échappe pas à cette règle. Elle grandit dans le monde en ayant de nouveaux membres par l'évangélisation. Elle donne à voir le règne de Dieu qui progresse aussi dans le cœur des croyants, dans notre propre cœur. L'Église grandit. L'Église, qui est le règne de Dieu, déjà mystérieusement présent, opère dans le monde par la vertu de Dieu sa croissance visible, dit le Concile. Donc, comme tout corps, l'Église aussi grandit. Et elle fait partie, c'est le signe de la présence de Dieu parmi nous. L'Église est également peuple de Dieu. L'Église, comme peuple de Dieu, nous donne à voir une réalité et en même temps nous donne cette réalité qu'elle nous donne à voir. Bref, elle est un sacrement, le signe et la réalité. Lorsque l'homme dans le paradis est tombé par le péché, il s'est livré, il a été livré à lui-même et il a instauré en lui-même une désunion, s'étant coupé de la tête, s'étant coupé de Dieu. Il se désagrège. D'abord entre Adam et Ève, puis dans leur progéniture, Caïn et Abel, Caïn qui tue Abel. Et dans l'histoire du salut, Dieu va se former un peuple avec Abraham pour réformer l'unité du genre humain, pour se refaire un peuple à lui. Mais l'unité de ce peuple n'est pas encore parfaite. Et c'est dans le Christ et dans son Église que cette idée de peuple devient vraiment réelle. L'Église est le peuple nouveau, le peuple que Dieu s'est choisi. Elle est le signe de ce peuple, elle est ce peuple, elle est le signe de l'humanité qui retourne à Dieu et de cette union à la fois avec Dieu, mais aussi entre nous. Elle est le signe et la réalité du choix de Dieu. Ce peuple nouveau, c'est un peuple que Dieu se choisit. C'est vrai que le mot « Église » veut dire « convocation ». On a été convoqué, on a été appelé, appelé par le Christ Jésus pour ne former plus qu'un seul, un seul peuple. Donc, l'idée de peuple complète l'idée de corps, et inversement. Comme le dit saint Pierre, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Ce qui autrefois n'était pas un peuple, étant maintenant le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu est signe pour nous de l'unité du genre humain et réalité pour nous dans l'Église de cette unité parce que nous avons été choisis par Dieu, parce que nous avons été convoqués par lui. Appartenir au peuple de Dieu, c'est faire partie d'un tout qui est uni et dont l'unité dépend du choix de Dieu, du choix gratuit, de ce choix de grâce qu'il nous a fait en nous appelant. Et l'Église nous permet de voir ce rassemblement. Il devient visible, ce rassemblement du peuple de Dieu. Et en le rendant visible, l'Église nous donne la grâce de pouvoir être un peuple uni derrière le Seigneur. Troisième grande analogie de l'Église qu'on trouve aussi chez saint Paul, l'Église est le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est ce don de Dieu qui nous est donné et qui est donné à son Église. L'Église est présente dans la tête, le Christ, aussi bien que dans ses membres. C'est-à-dire nous. Il est l'Esprit Saint tout entier dans la tête, tout entier dans le corps, tout entier dans chacun de ses membres, dit le Concile. C'est ainsi l'Esprit Saint qui est le principe d'unité profonde de l'Église, de l'unité des membres entre eux, et de chaque membre avec le Christ, et de l'ensemble des membres du corps avec le Christ. L'Église, quand on la comprend comme le peuple de Dieu, est le corps mystique du Christ, et donc le lieu où réside l'Esprit Saint. C'est là que l'Esprit habite. Le temple de Jérusalem, c'était le lieu où Dieu habitait. Désormais, c'est dans son Église qu'il habite, dans ce rassemblement, dans ce corps que nous formons, unis au Christ Jésus. Et cette présence de l'Esprit Saint dans l'Église est d'une puissance incroyable. C'est lui qui donne à ce peuple d'être vraiment un peuple, à ce corps d'être vraiment un corps et d'être vraiment efficace. Le rassemblement des humains est un seul peuple. En un seul peuple est le signe de l'unité voulue par Dieu que nous avions perdue par le péché. Et c'est ainsi que nous avons un sacrement, c'est-à-dire un signe qui donne une grâce. L'Esprit est pour l'Église le principe de toute action vitale et vraiment salutaire en chacune des diverses parties du corps. Voilà comment l'Église est un signe qui nous donne une grâce et qui nous donne cette grâce d'être rassemblés dans le Christ Jésus et qui nous donne cette grâce en étant rassemblés en lui, la grâce du salut, la grâce de retourner à notre Père céleste. Ce signe de l'Église est appelé, on l'a vu un peu dans l'analogie du corps, à se dilater. Le peuple de Dieu, uni et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers, dit le Concile. Et je crois qu'il y a, je le dis un peu plus rapidement que ce que j'ai prévu, en essayant de tout dire, mais il y a deux choses. Il y a cette mission de l'Église qui, dans sa nature, naturellement, se déploie en annonçant le Christ Jésus. Elle se disperse par le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle, le message du Christ. Ça fait partie de sa mission. Et l'Église est alors universelle. On peut dire catholique, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous. Parce que, justement, ce peuple que nous sommes, tous sont appelés à en faire partie. Parce que Dieu veut sauver tous les hommes et l'Église est son instrument pour apporter ce salut, pour être le signe visible de ce salut dans le monde. Mais il y a aussi, dans l'autre sens, l'Église veut récapituler en elle-même. L'Église ne fait pas que s'adresser à tous, elle veut tout prendre. Par une grâce qui lui vient du Christ, l'Église, efficacement et perpétuellement, tend à récapituler l'humanité entière, avec tout ce qu'elle comporte de bien, sous le Christ chef, dans l'unité de son esprit, continue le Concile. C'est-à-dire qu'il y a dans ce monde une multitude de bonnes et de belles choses. Il y a des hommes qui font le bien, même s'ils ne connaissent pas encore le Christ. Il y a des vérités qui sont connues par les hommes. Eh bien, tout ce bien, toutes ces vérités appartiennent au Christ et à son Église, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et puisque tout cela appartient au Christ, ça appartient à son Église, qui veut récapituler. On va dire, l'Église est gonflée, elle veut tout s'approprier. Non, c'est que tout cela lui appartient. Non pas pour en tirer sa gloire, mais pour faire de l'humanité un seul peuple à la suite du Christ, un seul corps, avec le Christ qui est sa tête. Et elle est le signe de cela, et elle nous donne de vivre cela, d'être missionnaire, d'annoncer le Christ, d'être le signe, mais aussi de récapituler et de rendre au Christ ce qui lui appartient, c'est-à-dire ses enfants, c'est-à-dire nous. Voici peut-être en quelques mots un petit peu rapides quelque chose de ce qu'est l'Église, une entrée dans ce mystère. Je vous invite, si vous le voulez, à lire le texte du Concile. C'est intéressant, pas toujours facile à lire, mais c'est intéressant. L'Église est le sacrement du salut. Je vous relis quand même la phrase du début, ce que je vous l'ai promis. L'Église est dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. J'espère qu'on aura un petit peu plus compris ce que veut dire le sacrement du salut, mais aussi ce qu'est cette Église, et que nous sommes invités par là à aimer cette Église, à vouloir en faire partie, à vouloir découvrir le Christ à travers elle et à vouloir faire découvrir le Christ aux autres aussi à travers elle. Les prochaines conférences de Carême, les prochains mercredis, vont nous permettre d'aller plus loin dans la contemplation de ce mystère de l'Église. Maintenant que nous savons un peu ce qu'elle est, sa nature, on peut peut-être aller voir son histoire dans les deux derniers millénaires, l'histoire d'une Église qui est sainte, qui est telle que nous l'avons décrite, mais qui accueille aussi en son sein des pécheurs que nous sommes. La semaine prochaine, le frère Vincent abordera ce thème en se posant la question de savoir est-ce que l'Église doit demander pardon et qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'Église demande pardon. Parce que nous nous tournions vers la Vierge Marie, la mère de l'Église, et qu'ensemble nous chantions le Salve Regina.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii, a te suspiramus. Gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos convert. Oh.